mars 2026, les élections municipales sur RMN.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Mono. Ce jour, émission spéciale élections. Dans un contexte où chaque voix compte, nous recevons aujourd'hui Anthony Smith, candidat à la France Insoumise à Châlons-en-Champagne, pour revenir sur les enjeux de cette campagne, ses priorités pour le territoire et répondre aux questions des auditeurs, auditrices. Bonjour Anthony.
Bonjour Radio Mono.
Alors Anthony, la première question sur l'écologie, l'adaptation et l'énergie. Châlons s'est engagé dans une démarche zéro carbone, la canicule s'intensifie chaque année. Quel est votre enjeu? Quelle est votre priorité pour 2026-2032 dans la continuité de ce combat?
Je vous remercie d'abord de m'inviter. Je vous remercie de me poser comme première question cette question sur l'écologie qui est la grande absente du débat municipal, qui est au cœur du programme que nous portons avec notre liste Faire mieux pour Châlons, la France insoumise, parce que cette question, en fait, elle détermine toutes les autres. Je vais vous donner des exemples de ce que nous proposons pour essayer d'être le plus concret possible, mais... D'abord, un constat, les 10 000 arbres, les promesses du maire. Je propose aux Chalonnais de regarder la place Foch, de regarder la place de la République, de regarder le parvis de la gare. Je les laisse eux-mêmes constater le fait que ces 10 000 arbres, s'ils ont été plantés, nous ne les voyons pas réellement. Et que c'était, je rappelle, une promesse de 2020 du candidat et du maire sortant. Et qu'en fait, on se rend compte que la question écologique n'est pas une question qui transcende et qui est prioritaire dans la politique municipale. Elle l'est pour nous parce que nous pensons que des communes au pays, la transition écologique, vous avez cité la question du changement climatique, du réchauffement, on le voit encore partout dans le pays avec des inondations tantôt, des canicules à d'autres moments. Eh bien, la question de la transition écologique, c'est une question pivot, c'est une question centrale sur laquelle nous ne pouvons pas faire l'impasse. Et nous pensons qu'elle transcende l'ensemble des sujets. Nous défendons dans cette campagne, mais comme lors des autres élections, parce que nous pensons aussi que la campagne municipale est liée aux élections et aux échéances qui vont arriver, dont l'élection présidentielle, nous défendons ce que nous avons appelé la règle verte. La règle verte, c'est de ne pas prendre plus à la nature que ce qu'elle est capable de reconstituer. C'est une philosophie, en fait, politique qui a des implications très pratiques. J'étais récemment dans un débat sur le sport avec les autres candidats où j'ai tenté justement de poser la question de cette règle verte dans le débat. Par exemple, aujourd'hui, la municipalité, face à des stades qui étaient occupés, entre guillemets, par des bernaches, nos bernaches que nous aimons tant à Châlons, eh bien, a décidé de remplacer le gazon par des terrains synthétiques. Par des terrains synthétiques sans poser la question à la fois des fibres plastiques qui vont partir dans le sol, sans poser la question du remplacement, sans poser la question des poches de chaleur que crée ce système-là. Donc en donnant une réponse certes immédiate qui a enlevé les bernaches, mais qui n'a pas permis de penser la transition sur le long terme. Pour notre part, nous pensons qu'il faut penser la question écologique dans chacune des décisions municipales que nous prendrons. Autre exemple, le bike park qui a été installé sur les bords de Marne. Eh bien, ça nous pose une difficulté. On a dû raser le sol, le mettre à nu, installer un équipement qui est nécessaire dans la ville pour la jeunesse à un endroit qui n'est pas le bon. C'est-à-dire qu'il faut préserver l'écosystème des bords de Marne, en faire au contraire un endroit entre guillemets sanctuarisé pour permettre aux promeneurs et à la nature de cohabiter. Et donc, vous voyez cette disposition-là, contre laquelle Agnès Guyot, notre conseillère municipale sortante, a voté au conseil municipal, nous semble encore une fois démontrer une autre logique qui serait la nôtre et qui prendrait la question écologique à cœur. Et la question, outre la question écologique, la question du bien-être animal, la question en fait de la cohabitation de l'ensemble de ceux qui vivent dans cette ville, humains et animaux. C'est quelque chose auquel nous sommes très attachés. Agnès a porté tout au long du mandat la question des pigeonniers contraceptifs, la question du canipark et donc l'importance en fait de penser la ville comme une ville écologique, moderne, de transition, sans opposer la question de l'attractivité à la question écologique, sans opposer la question du développement économique à la question écologique. Nous devons intégrer la question écologique dans notre réflexion globale, et la règle verte que nous proposons est un moyen d'avoir cette éthique en politique tout au long du mandat.
Sur la sécurité à présent, la ville de Châlons a beaucoup investi dans la vidéosurveillance haute définition avec le projet Connect Châlons. Cependant, le sentiment d'insécurité persiste, surtout dans certains quartiers. Les résidents en parlent, ça parle sur les réseaux sociaux. Quelle serait votre doctrine ?
D'abord, de redire que chacune, chacun, citoyenne, citoyen de la cité, a le droit de vivre en tranquillité, et que la tranquillité publique est un principe fondamental de notre République, que le droit à la sûreté est un principe fondamental. Moi, je pense que ça, il faut le rappeler, et également penser la police municipale comme un service public local. Je parlerai certainement tout à l'heure, mais au même titre que la santé, le transport, le logement, la police municipale est un service public local. Et donc, nous défendons ce droit à la sûreté et ce droit à la tranquillité publique. Et pour le faire vivre, nous pensons qu'il faut changer les rapports entre les habitants de cette cité et les rendre évidemment plus fraternels. D'abord, en ne laissant pas l'extrême droite prospérer sur ces sujets-là. Vous avez parlé des réseaux sociaux. On a évidemment toute une série de fausses nouvelles, de rumeurs qui sont propagées directement par l'extrême droite. Je pense à cette vidéo qui a circulé et qui donnait, je vais être très factuel, des chiffres mensongers en expliquant que le nombre d'étrangers sans titre de séjour avait explosé à Châlons-en-Champagne, puisque, je cite, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait dû gérer plus de 1000 dossiers de ce type. C'est totalement mensonger, puisque ce n'est pas le chiffre qui est en cause, mais le fait que le tribunal administratif de Châlons dispose d'une compétence pour les départements de la Marne, des Ardennes, de la Haute-Marne et de l'Aube, c'est-à-dire de l'ensemble de l'ex-Champagne-Ardenne. Vous voyez bien que la possibilité de tronquer cela, d'utiliser le sentiment d'insécurité qui existe parmi nos concitoyennes et nos concitoyens, est une manœuvre politicienne qui vise à diviser les Chalonnaises et les Chalonnais. Nous refuserons de tomber dans cette logique, de même que nous condamnons l'échange qu'ont pu avoir le maire et le candidat d'extrême droite sur ce sujet, sur vos confrères d'une télévision régionale, dans lequel ils expliquaient chacun qu'ils allaient expulser tout le monde de leur logement, notamment lorsque des parents auraient été condamnés. C'est totalement absurde. On doit être dans une logique de prévention, dans une logique d'inclusion, dans une logique évidemment de sanction lorsqu'il y a des fautes qui sont commises et des troubles à l'ordre public. Mais expulser quelqu'un de son logement, c'est certainement la moins bonne façon de régler des situations de violence ou d'insécurité, puisque vous les reportez dans la rue ou vous les reportez à d'autres endroits sans les traités à la source. Donc nous, ce que nous voulons, c'est une police qui soit une police citoyenne, qui soit respectueuse des citoyennes et des citoyens. Nous ne voulons pas de convoy, nous voulons revenir aux gardiens de la paix, c'est-à-dire à des gens que l'on voit, à des gens avec qui l'on discute, dans la rue, dans les quartiers, sur les marchés, partout, avec cette volonté d'être dans l'échange et la prévention. Moi, j'ai souvenir d'un président de la République qui expliquait que le rôle de la police n'était pas de jouer au football avec les jeunes des quartiers. Mais je vais vous dire, nous, on pense tout l'inverse. Le rôle de la police et la société que nous voulons construire, et la ville que nous voulons construire, c'est une société et une ville où la police, la jeunesse, les quartiers, les centres-villes ne se font pas la guerre, mais où on se parle et où nous aussi, adultes, citoyens, citoyennes, nous réinvestissons les lieux publics, nous réinvestissons la question publique. J'ai le souvenir d'un maire qui expliquait que aujourd'hui, on était le dimanche, lorsque quelqu'un tondait dans son village, eh bien avant, il y avait toujours un voisin pour lui dire « qu'est-ce que tu fais ? On est dimanche, on tond pas ». Et qu'aujourd'hui, en fait, les gens allaient directement voir la mairie pour régler cette question. Ben non, je pense que nous devons collectivement, dans nos rues, dans nos quartiers, nous réapproprier la question du bien-vivre et du bien-vivre ensemble. Souvent, lorsque l'on va discuter, moi j'habite dans un quartier populaire à Rive-Gauche, si on va discuter à 2-3 voisins sur une situation qui peut être problématique, du bruit ou autre, eh bien on arrive à régler la situation beaucoup mieux qu'en étant dans l'escalade. Il faut une stratégie sur la sécurité qui soit une stratégie de désescalade, ce qu'appliquent d'ailleurs d'autres polices dans d'autres pays, ce qui fonctionne très bien, et ce n'est pas la culture française qui est une stratégie d'escalade, et ça c'est extrêmement dangereux et préjudiciable pour le vivre ensemble, qui reste évidemment notre priorité. Et puis après, encore une fois, ne caricaturons pas tout. J'ai vu, on était au marché l'autre matin, un matin où justement les troupes du RAID ont eu à intervenir dans Châlons-en-Champagne, tout le monde en a parlé, et bien en 30 minutes, la question était justement réglée. C'est-à-dire qu'il y a des dispositifs de sécurité qui permettent cette intervention. Il ne faut pas dire que c'est dangereux parce que ça s'est passé. Ce qui est important, c'est que la réponse qui a été donnée par l'autorité publique l'a été dans des temps très courts, et ça, je pense que c'est ce qu'il faut souligner et chercher à construire dans notre ville qui reste, rappelons-le, j'entends les chiffres qui sont cités par l'extrême droite, du doublement des gardes à vue, par exemple, dans la ville, on est passé de 23 à 46. Donc il faut rester dans des proportions qui sont quand même entendables. Les discours qui visent à faire peur, à opposer, à rabougrir le débat public et à rabougrir l'humanité, ce ne seront jamais les nôtres à faire mieux pour Chalon.
Parlons budget à présent. Le budget 2026 est marqué par une forte pression de l'État sur les collectivités locales. Dans ce contexte, comment comptez-vous préserver l'autonomie de Chalon face à Reims? Et plus précisément, comment allez-vous maintenir un niveau de service public de proximité dans la santé, dans la culture, dans l'éventualité où la fiscalité locale ne serait pas augmentée pour compenser la baisse des dotations nationales?
Oui, vous avez fort raison de poser cette question. D'abord, et je le dis dans cette campagne chaque jour, Chalon n'est pas une île. Chalon n'est pas une île, et la question du budget de la ville est bien l'exemple, en fait, de cette affirmation-là. Vous savez qu'une grande partie du budget, une partie conséquente du budget des communes et des collectivités territoriales dépend de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, qui est elle-même décidée dans le cadre du budget de l'État. Il y a donc un levier qui est déterminant, qui ne fait pas reposer sur la fiscalité locale la création des politiques ou du maintien des politiques publiques, mais qui fait reposer sur le budget de l'État. Et ce débat, si les Chalonnaises et les Chalonnais le regardent, eh bien, que s'est-il passé? Lors du budget 2026, vous avez eu le Rassemblement national qui proposait une baisse de 5 milliards d'euros lors du débat à l'Assemblée nationale pour la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire qui grévait directement le budget de la municipalité de Chalon, comme de toutes les municipalités de France. Vous avez le gouvernement macroniste que soutient M. Apparu qui proposait quant à lui de diminuer de 2 milliards d'euros ce budget. Et puis par ailleurs, vous le savez aussi, les socialistes ne se sont pas opposés à ce budget. Ce sont les groupes communistes, écologistes et de la France insoumise qui se sont opposés à ce budget en proposant la censure du gouvernement. Donc vous avez effectivement des choix politiques nationaux qui ont des incidences locales directes, et le budget est l'un de ceux-là puisqu'il a un levier majeur pour agir sur les politiques publiques locales. Et ces politiques publiques locales, c'est la deuxième partie de vos questions et j'y réponds, elles sont pour nous essentielles. C'est les priorités que nous nous fixons dans cette campagne, ce sont le bien commun, ce sont le vivre ensemble à travers, nous proposons trois propositions donc, que nous sommes en capacité de financer, parce qu'encore une fois, le budget est très très large, et je vais vous donner y compris un chiffrage. Première proposition, le transport gratuit sur la ville au cours du mandat. C'est un engagement fort de la campagne. Nous voulons que centre-périphérie soit relié, que les citoyennes et citoyens puissent avoir accès à des transports de bus de qualité et non pas relever de près de plus de 15% comme le propose l'aglo sur le prix du ticket unitaire. Donc ça, c'est une priorité. Il y a plus d'une centaine de villes en France qui l'ont fait, dont des grandes villes de taille équivalente à Chalon et pas forcément gérées par la gauche par ailleurs, pour être totalement honnête. Hein, vous avez Niort, vous avez Dunkerque, vous avez Aubagne, vous avez toute une série de villes qui l'ont fait. On estime et on chiffre le budget annuel de cette mesure à environ 1 million d'euros. Il faudra évidemment qu'on s'appuie sur la qualité des agents municipaux de leur travail pour qu'on puisse expertiser avec les services une fois que nous dirigerons la ville. Mais nous avons ce projet-là qui est une priorité que nous mettrons en avant. Deuxième projet, la question des centres de santé, sur la ville. Il y a un échec de la municipalité sortante, clairement. Il y a une demande qui est énorme d'avoir des centres de santé avec des médecins généralistes et des spécialistes. Cherchez aujourd'hui à Chalon un kiné, cherchez aujourd'hui à Chalon un rhumatologue, chercher un spécialiste, en fait, est une vraie difficulté. On a laissé partir les médecins du quartier Schmitt qui sont allés s'installer à Saint-Martin-sur-le-Pré. Saint-Martin-sur-le-Pré, ce n'est pas Chalon. Il y a toute une économie qui s'est construite autour du centre de santé de Saint-Martin-sur-le-Pré et qui aurait dû et pu être construit au cœur d'un quartier populaire, le quartier Schmitt, et ça n'a pas été le choix retenu par le maire sortant. C'est inacceptable. Donc des centres de santé dans les quartiers, parce que lutter pour la santé publique, pour la santé des gens, quelles que soient les générations, mais évidemment je pense aussi à nos aînés, c'est essentiel et c'est ce qui manque dans la ville. Donc vous le voyez, santé, transport et logement. Logement, c'est aussi la troisième priorité. On discute, on va en porte-à-porte dans les quartiers avec les citoyennes, les citoyens échanger, et ce qui ressort est assez terrible. Je veux dire, la question du bâti, la question énergétique, la question des rappels de factures qui sont faits et qui grèvent, là encore, le budget de nos concitoyennes et de nos concitoyens, pose la question de la réhabilitation du bâti, d'un bâti qui soit écologiquement et intelligemment modernisé de façon beaucoup plus accélérée que ce qui a été fait par la municipalité sortante, là encore. Et donc, nous portons cette question. Et vous voyez, elle rejoint aussi la priorité de transition écologique qui est la nôtre sur la ville. Et on pourrait parler du réseau de chaleur, de son état, des coupures que subissent les Chalonnaises et les Chalonnais au moment même où on se parle.
L'attractivité de Châlons-en-Champagne, qui, comme de nombreuses villes moyennes, fut face au défi de retenir ses habitants et d'en attirer des nouveaux. Selon vous, quel est aujourd'hui le principal frein à l'attractivité de notre territoire et quel levier comptez-vous actionner pour redonner durablement de la vitalité à Châlons ?
Alors je le dis parce que trop souvent, on la critique, Châlons est belle. Châlons est belle, elle est belle de son architecture, de son patrimoine, elle est belle de ses canaux, elle est belle de ses promenades, elle est belle de son bâti. Et je pense qu'il faut le dire, nous vivons dans une belle ville qui malheureusement, évidemment, a plutôt été présentée par le maire et la municipalité sortante comme une vitrine sur certains sujets. Je pense aux grands clubs de sport qui sont particulièrement aidés. Et je pense que c'est un mauvais choix tactique. C'est-à-dire que stratégiquement, sur le mandat, il faut mettre au cœur le fait que vivre à Châlons, c'est la possibilité d'avoir accès à un ensemble de sports, de services publics, de transition écologique aboutie sur les équipements, qui donne en fait à une ville de plus de 43 000 habitants, eh bien, un cadre de vie qui donne envie de s'installer. Non pas pour le bling-bling, non pas pour ce que l'on voit ou ce que l'on montre, mais pour le Châlons du quotidien. Vous savez, on a au centre hospitalier un service de cancérologie à Châlons qui est extrêmement bon, qui est sous-utilisé par rapport à Reims. Vous parliez de Reims. Je pense qu'il ne faut pas chercher à concurrencer une ville où l'attractivité à Reims est différente, de par, y compris sa structure, la question des étudiants qui y sont présents en masse. Je pense qu'il faut chercher à jouer dans notre catégorie et à jouer intelligemment. J'étais récemment à l'ENSAM, à l'École nationale supérieure des arts et métiers. On a là un outil qui est magnifique. On a l'IUT en termes d'enseignement supérieur qui, là aussi, offre une série de formations de qualité. Je pense qu'il faut veiller au bien-être de la jeunesse étudiante. Je pense qu'il faut veiller aussi au bien-être des travailleurs chalonnais. Vous savez, quand on supprime la ligne de bus Châlons-Verdun, qui avait déjà, la bus SNCF, qui avait déjà fait l'objet en 2013 de la suppression de la ligne TER qui reliait Châlons-Menoux-Verdun, eh bien, lorsque on annonce ça, moi, si je suis maire demain, ma priorité, ça sera de convoquer immédiatement la direction régionale de la SNCF dans mon bureau pour voir comment, non seulement on maintient la ligne Châlons-Saint-Menoux-Verdun, mais comment on restaure la ligne SNCF qui existe toujours. Même question pour Troyes. Comment on peut encore, alors que le ferroviaire existe, être dans une situation où nous n'avons pas de ligne de train Châlons-Troyes, mais uniquement un bus. Donc vous voyez, le maire, il a à faire des choix qui permettent aux gens qui vivent ici, qui travaillent ici ou ailleurs, de le faire dans de bonnes conditions. C'est simple, c'est basique, mais c'est franchement l'intérêt, je pense, qui est à défendre dans cette campagne. On ne cherche pas à faire du bling-bling pour vendre Châlons comme étant la nouvelle Athènes, mais on cherche à faire en sorte que les gens qui sont là, qui vivent ici, qui construisent leur vie ici, aient envie de le faire. En restaurant les écoles, hein, en restaurant effectivement le bâti scolaire. Moi, je discute avec les parents d'élèves, c'est dramatique. Nous avons eu 20 fermetures de classes. Je me suis battu l'année dernière sur l'école Ferdinand Buisson pour obtenir la non-fermeture d'une classe. Et c'est partout pareil. Donc c'est ça l'enjeu d'un maire, c'est d'être au combat, aux côtés de ses administrés, pour faire en sorte que on puisse résister. Ça, c'est l'attractivité. Pour nous, ça, c'est l'attractivité. Après, on pourra parler de la foire, de savoir comment on a une foire qui, elle aussi, se pose la question de la transition écologique, qui se pose la question de valoriser les circuits courts. Quand nous, on pose la question de la cantine gratuite, bio et en circuit court, ben, on dit que oui, avec une cantine centrale comme nous en avons une, nous avons la possibilité de faire ça et on offre du service et en même temps, on offre de la transition écologique, c'est-à-dire qu'on lie la question du bien-vivre localement à la question des idées que nous défendons avec la liste Faire mieux pour Châlons et la France insoumise. Et je pense que c'est ça qu'attendent nos concitoyennes et nos concitoyens.
La politique culturelle et le rayonnement Châlons-Champagne possèdent une identité forte liée aux arts de la rue et au cirque, mais aussi un patrimoine historique riche. Quelle est votre vision pour la politique culturelle des prochaines années ?
Oui, je vous le disais, Châlons est belle. Elle est belle de son patrimoine, elle est belle de ces canaux, elle est belle de ces gens, de ces humanités, de nos différences, et elle est belle de sa culture, bien sûr, je veux dire, des furies au cirque, c'est quelque chose qui est fondamental. On a un des derniers cirques de France en dur, c'est dire l'histoire de ce cirque, et je sais, moi, comme tous les Chalonnaises et les Chalonnais, qu'on se fait un plaisir d'être au spectacle du CNAC, d'y aller justement dans un esprit de grande ouverture sur ce que proposent les circassiennes et les circassiens. D'ailleurs, on a une circassienne qui est sur notre liste, on en est très fiers parce qu'on pense que ce lien il doit être extrêmement fort avec les arts du cirque, pas seulement les arts du cirque, mais j'en dis quand même deux mots parce que vous le savez, c'est un débat qui a structuré le débat politique local pour ou contre le cirque de Monsieur Apparu. Je pense que il faut le dire clairement, Chalon est une ville du cirque. On ne porte pas, comme moi je le fais, un projet d'émancipation sociale sans défendre le cirque dans la ville. Et oui, nous défendons le projet d'un cirque fort, d'un musée du cirque qui ne soit pas qu'un musée, mais nous ne le défendons pas comme Monsieur Apparu. C'est-à-dire, pour nous, c'est pas une maquette qu'on présente à Noël à l'hôtel de ville ou après dans les salons parisiens. C'est un projet de cirque qui aille de l'école à l'EHPAD, qui lie les générations et les quartiers, qui permette à l'intérieur de ce projet de cirque de défendre l'éducation populaire, de défendre l'émancipation par le projet du cirque. Et c'est lié au transport gratuit, c'est lié à ce que nous voulons. Tout est cohérent dans le programme que nous défendons dans cette élection. Et donc, le cirque en fait partie. Et donc, nous défendrons ce projet, bien entendu, mais pas le projet de Monsieur Apparu. Nous disons même plus loin, nous portons dans cette campagne ce qu'on appelle la démocratie citoyenne, et notamment un référendum d'initiative citoyenne. Et typiquement, la question du cirque qui transcende les courants devrait être arbitrée par les Chalonnaises et les Chalonnais. Il y a possibilité, on doit, dans la ville, décider d'une façon différente de ce que l'on fait une fois tous les 6 ans, en mettant, et en plus là, ça risque d'être 7 ans, son bulletin dans l'urne. On a vu l'abstention qui est massive dans la ville, comme ailleurs dans le pays, il faut lutter contre parce que sinon le suffrage deviendra un suffrage censitaire, réservé à ceux qui savent. Maintenant, nous voulons que ce soit l'ensemble des citoyens et des citoyennes qui participent. Et il n'y a pas que le cirque, il y a les furies évidemment qu'il faut aider, il y a l'ensemble des structures. Moi, je regrette que par exemple le festival Féminista ait été supprimé sur la ville. Et je pense que notre intérêt est d'avoir ces festivals à la fois pour ce qu'ils disent de ce que sont les Chalonnais, des gens accueillants, des gens ouverts, des gens bienveillants. Et je pense que c'est ce que nous devons cultiver, parce que c'est en cultivant cette ville que nous cultivons l'avenir de notre jeunesse et l'avenir de notre commune.
Merci beaucoup, Anthony Smith.
Merci à vous.
Mars 2026, les élections municipales sur RMN.